Je relis avec vous ce matin le tout premier psaume, le psaume 1, le psaume 1er, dont le titre qui nous est donné dans cette traduction nous dit « Le vrai bonheur ». Heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec eux, ceux qui se moquent de tout. Ceux qui l'aiment, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur, il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Mais ce n'est pas le cas des méchants. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas admis dans l'assemblée des justes. Il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des justes, mais la conduite des méchants les mène au désastre. En compagnie de bien d'autres textes, ce premier psaume et bien d'autres textes de la Bible, notamment dans les Proverbes, aurait pu faire partie d'une sélection de textes où l'on essaie, par des arguments déployés par ces textes, de montrer à quelqu'un que la justice paye et que, par contraste, le crime ne paie pas. Et on aurait comme objection probablement la bonne vieille réalité qui nous dit le contraire, que le crime paie et comment ? Et que les justes ne prospèrent pas autant qu'il le faudrait. Toutes les critiques qui ont été adressées à toutes les religions, la nôtre, mais dans les autres aussi, ont porté sur cette question de la justice, de la présence du mal malgré nos efforts, quand il y a effort. Mais ce psaume n'essaie pas de régler cette question insoluble. Il nous parle de quelque chose qui est de l'ordre du bonheur ou de la joie. C'est cette pointe-là qu'il fait ressortir. La recherche de la joie est pour le psalmiste une chose importante, c'est peut-être même la seule qui devrait être au centre de notre vie. Elle est le témoignage, en tout cas, de notre goût humain pour ce qui favorise notre épanouissement. C'est ça la joie, cette espèce d'énergie qui pousse à se déployer plutôt qu'à se racornir ou se chiffonner. Mais ce sentiment de joie n'est pas un témoin infaillible, on le sait bien, d'une plénitude qui aurait atteint notre cœur et qui serait comme un état dont on ne peut pas déchoir. Ce n'est pas un état stable, un lieu confortable où chacun pourrait s'installer, c'est comme ça. La joie est dépendante de la chose dont nous tirons notre joie. Il est parfois bien difficile de tirer de la joie des circonstances qui nous accablent. Le psalmiste avait bien compris tout cela, il ne faut pas prendre les auteurs de ces textes pour des naïfs ou de doux rêveurs. Dans le premier psaume, l'homme juste et droit, c'est de lui qu'il est question, juste et droit dans sa marche, est justement décrit comme heureux. D'ailleurs, si on relit le premier verset, on a l'impression d'entendre un peu les béatitudes, leur début. Même si la comparaison ne peut pas se faire jusqu'au bout. Il est heureux parce qu'il marche dans cette loi et il y trouve son plaisir. L'homme heureux est celui qui marche, s'arrête aussi de temps en temps et s'assied au cours de sa vie, mais quoi qu'il fasse, il le fait avec droiture et justice. L'homme qui ne marche pas d'un même pas avec les pécheurs est heureux et il expérimente une marche heureuse et bénie. Là encore, on est un peu dans le registre des béatitudes. Ça ne nous dit pas d'où vient cette joie au sein même de la marche. On aurait pu demander à Abraham, d'ailleurs, si c'est cette joie déjà entrevue qui l'avait poussé à se lever, ou s'il l'a trouvée un peu plus tard en voyant déjà le chemin parcouru, en se disant qu'à chaque pas, il s'approchait de l'accomplissement de sa promesse. On ne saura probablement jamais, il se trouve que s'il est justifié devant Dieu, c'est parce qu'il s'est levé. On est justifié par une impulsion, par un oui qui nous met debout. Cet homme heureux du psaume 1er est justement dans la joie, dans le bonheur, parce qu'il abreuve son cœur par la source éclatante et satisfaisante de la parole de Dieu. C'est un peu comme ça qu'on peut paraphraser ce que dit ce psaume. Il sait qu'aucune autre source ne sera aussi rafraîchissante, désaltérante ou satisfaisante que celle-là. Et le psalmiste va jusqu'à dire que tout ce qu'il fait lui réussit. Ça aussi, en le relisant, on a toujours un peu de mal. Le juste fait ce qu'il faut et ça lui réussit. Cette phrase m'a, pendant un bon moment, posé problème. Je ne peux pas dire que le problème soit résolu à l'heure actuelle, d'ailleurs. Je me suis demandé si David était le précurseur, le premier promoteur d'un évangile de la prospérité. Si vous priez bien, si vous faites ce qu'il faut, si vous marchez dans la loi, alors vous serez heureux, vous serez bon, vous serez juste, et en plus, tout vous réussira. L'évangile de la prospérité, c'est cette doctrine qui affirme que l'aisance financière est un signe de bonne santé spirituelle, et que par opposition, la pauvreté matérielle est une malédiction, une sanction divine. Ça fait un monde facile à comprendre, c'est déjà l'avantage. Ça paraît assez fou, comme on le dit comme ça, d'un trait, sans reprendre son souffle, mais c'est ce que contient cette doctrine. On se dit qu'une idée pareille ne peut germer que dans des gens pour qui déjà tout a fonctionné, comme une reconnaissance d'une aisance matérielle enfin acquise, et qu'ils accordent ou qu'ils transposent dans une joie, un bonheur, qu'ils espèrent durable, et dont ils font une spiritualité. C'est peut-être ce qui arrive à ceux qui pensent que les deux courbes se suivent l'une l'autre, la spiritualité et le bonheur matériel. En réalité, il y a quelque temps, mais c'est moins ancien que le psaume de David, l'économiste Max Weber, qui est plus récent, avait effleuré cette idée, et même il l'avait bien traité dans son ouvrage « L'éthique protestante, l'esprit du capitalisme », que vous avez certainement lu et relu au moins 10 fois chacun. Donc je ne reviens pas sur ces bases évidentes, ça m'évite de les expliquer moi-même parce que c'est un peu loin. Weber, en tout cas, dans ce livre, attribuait l'investissement plus grand des protestants dans l'activité économique à leur manière particulière de comprendre un engagement dans le monde, dans l'engagement séculier, comme si c'était lié à une vocation. La vocation n'était pas simplement le fait d'avoir une activité dont on dit qu'elle est une vocation, comme les soignants, les enseignants, ou les vocations ecclésiastiques, ces gens dont on dit s'ils font ça, il leur faut une bonne raison, ils doivent avoir une vocation, sinon ils auraient fait autre chose. En réalité, pour Weber, qui avait bien compris l'éthique protestante, tout métier, toute manière de prendre sa place dans le monde est une manière de répondre à Dieu qui nous demande où est ta place, et de la désigner soi-même librement du doigt en disant « c'est celle-ci que je veux prendre ». Et à partir du moment où on a dit cela, alors on a compris sa vocation. Il y a donc une différence très nette entre l'éthique protestante du travail qui part d'un reçu, de quelque chose qui est déjà là. On nous a tout donné, et avec ce tout donné, ce paquet qu'on reçoit, il faut faire librement quelque chose de ce qui a été reçu. C'est faire déjà fructifier un héritage. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la théologie de la prospérité qui prétend lier la bonne santé spirituelle avec le bien-être matériel, une chose après laquelle on court encore comme si on ne l'avait jamais vraiment. Les deux modèles ne sont pas juste un peu différents, ils s'opposent complètement. D'autant plus que certains fondent cette manière étrange de voir les choses sur une lecture assez étrange de la parabole des talents, dont le but est, si on la lit correctement, et jusqu'au bout surtout, de faire ressortir davantage la grâce que de valoriser des mérites. Puisque les talents sont aussi des choses reçues. On ne les a pas mérités, elles nous ont été confiées. Tout ça nous ramène à notre question de tout à l'heure. Est-ce que ma réussite, puisque puisque tout doit me réussir, apparemment, serait fonction de ma piété. Le psalmiste dit seulement au premier verset, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Selon le conseil des méchants, c'est-à-dire, c'est bien à ce niveau que tout se joue. Hein. La réussite se situe à un niveau très différent de celle qui est proposée par notre culture ou même par certaines lectures faussées des évangiles. Celle dont parle le psalmiste, parce qu'il évoque bien une forme de réussite, c'est celle de cet homme qui a su se satisfaire de quelque chose qu'on lui a donné, comme la manne quotidienne, un reçu, un donné, pas un conquis. À l'image de la collecte de la manne dans le désert, la réussite n'est pas une question de quantité à entasser, puisqu'il y en a toujours. Elle ne risque pas de manquer. L'épisode de la manne s'achève avec ce principe simple, hein, celui qui ramasse peu ne manque de rien, celui qui ramasse beaucoup n'a rien de trop. Étrange, hein ? Personne n'a épargné, personne n'est mort de faim. On est décidément bien loin de la théologie de la prospérité, et puis ce n'était pas la peine de s'offusquer à ce point il y a 500 ans contre un trafic d'indulgence pour finir escroqué par une théologie de boutiquier. Ce serait dommage. Il y a bien une réussite dans le psaume premier. Elle pourrait se définir comme le fait d'être complet, à travers des dons reçus de la part de Dieu, c'est à lui qu'on attribue les choses, puisque au fond rien ne nous appartient vraiment, des dons qu'on reçoit avec reconnaissance et qu'on fait fructifier par l'enthousiasme de son travail. Et ce n'est pas à l'issue de ce travail que nous sommes justifiés, nous le sommes avant même de l'avoir commencé. Ici encore, nous sommes loin de la définition ordinaire de la réussite, souvent préoccupée de prospérité, de réussite matérielle. David dit que Dieu s'est approché de nous. Il nous faut cette proximité, il faut que quelqu'un fasse une distance qui serait trop grande pour nous, pour pouvoir être juste. Il nous a parlé et nous a instruit sur ce qui est juste et saint, tout est donc là, il n'y a plus qu'à. Et pour que nous devenions cet homme, cette femme qui ne marche plus selon le conseil des méchants, qui cherchent toujours quelque chose qu'ils ont déjà, il a fallu qu'un homme plus proche de nous aussi soit justement juste et droit, et qu'il soit, comme dans le psaume, cet arbre beau, fleurissant, pur et sans tache, juste, planté juste à côté de la source. Un arbre profondément ancré dans la loi de Dieu, dans la loi de son Père, et qui ne prenait pas plaisir non plus dans autre chose que le fait d'accomplir la parole de son Père. Et comme tous les arbres qui rendent jaloux, il a été coupé de la terre des vivants, il est devenu un objet de dérision, une malédiction, pour que la condamnation soit écartée de nous. C'est en lui que nous pouvons alors être heureux, puisque tout a déjà été reçu et que rien n'est plus à conquérir. En ne marchant plus selon le conseil des méchants, et nous pourrons alors prendre plaisir dans une loi qui est toujours là, toujours donnée, même si elle nous paraît souvent inacceptable et certainement pas gage de réussite à chaque instant. L'homme qui a su trouver son plaisir dans la parole de Dieu, c'est une expression un peu mystérieuse, elle fleurbond le patois de Canaan. Elle ne nous étonne presque plus tellement les mots sont usés. Cet homme dont la marche est heureuse est pourtant un homme qui a sa place au sein de l'Assemblée des Justes et qui marche sous le regard de Dieu. Parce que, vous l'avez certainement vu à la fin, on nous parle du juste au singulier. Et le psaume finit en nous parlant de l'Assemblée des Justes. Juste au pluriel, on ne peut pas être juste tout seul, ça ne sert à rien finalement. Ce plaisir dont le psalmiste parle ne se savoure pas dans la solitude, c'est une marche heureuse, d'accord, mais une marche qui n'est pas solitaire, elle s'articule avec les autres membres du corps qui constituent l'Église. C'est une joie et un plaisir partagé avec des frères et des sœurs en Église. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Albert Schweitzer. Vous voyez la référence, c'est sûrement vrai, y compris et surtout en Église. Amen.